Radio Cité Genève, Viviane De Witte,
la bouteille à moitié pleine.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, on va parler d'un livre merveilleux, dont le titre est un oxymore poétique. Les terres d'eau, terre et eau, c'est antinomique en apparence. Alors on va discuter de tout ça avec son auteur, Tobias Salaté. Bonjour Tobias.
Bonjour Viviane.
Vous avez édité ce livre aux éditions Buchet-Chastel. Je l'ai lu en ne sachant pas trop à quoi m'attendre au départ, bien que la photo soit ravissante. Il y a des flamants roses, il y a une barque dans le lointain. C'est en Camargue ?
Oui, c'est des pêcheurs dans Camargue.
Voilà. Et puis j'ai abordé ce livre, un livre qui me paraissait au départ peut-être trop savant, mais qui en réalité est une merveilleuse promenade sur notre planète et surtout plein d'enseignements, comme on va le voir. Alors, qui êtes-vous tout d'abord, mon cher Tobias ? Quel est votre parcours ? Où êtes-vous né d'abord ?
Bon, je suis né à Bâle et j'ai passé pas mal de temps en Camargue, d'où peut-être mes...
Attendez, on ne va pas passer les étapes si vite.
D'accord.
Parce que quand vous êtes allé en Camargue, vous étiez déjà un homme. Alors, quand vous étiez enfant, vous êtes né à Bâle. Vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient ?
Mon père travaillait dans l'industrie chimique bâloise. Ma mère, à l'époque, elle était essentiellement mère au foyer, mais elle était aussi impliquée dans plein d'associations culturelles, des bibliothèques, et elle enseignait l'anglais aussi.
Vous avez des frères et sœurs ?
J'ai une sœur qui vit toujours dans la région bâloise, oui.
D'accord. Alors, vous avez fait quel genre d'études ?
J'ai étudié la biologie à Bâle même, puisque c'était le plus simple. Je pouvais rester vivre avec mes parents. Mais après, c'est devenu un peu trop l'étroit, la Suisse, pour un jeune. Donc, je voulais découvrir le monde et j'ai découvert la Camargue.
Alors, avant d'arriver en Camargue, je vais vous poser la question rituelle dans cette émission. Quel petit garçon étiez-vous ?
Pas très conforme, plutôt révolté, plutôt... mes instituteurs ne me l'ont pas trop aimé, je pense, parce que j'ai trop indiscipliné.
Vous mettiez le bazar ?
Pardon ?
Vous mettiez le bazar dans l'école ?
Pas trop, mais je questionnais plein de choses avec des collègues. Et on était considéré notre classe comme une classe plutôt plus difficile que d'autres, parallèle.
D'accord, donc vous étiez un enfant agité ?
Oui, un peu révolté, oui.
Mais révolté contre quoi à l'époque ?
Contre l'autorité, contre plein de choses. C'était bon. Un peu l'âge aussi. Hein.
Alors, vous partez ensuite, donc vous faites des études de biologie, vous trouvez que la Suisse est trop étroite, vous partez pour la France. Comment l'idée vous est venue d'aller en Camargue ?
Bon, après, il y a des contacts, des liaisons. J'ai travaillé en tant qu'étudiant déjà au musée d'histoire naturelle de Bâle, là où il y avait, et j'ai compris après une première visite en Camargue avec des collègues, en fait, il y avait un Bâlois, une génération avant moi, qui avait créé une station de terrain pour des études sur le terrain, de biologie sur le terrain. Et je me dis, tiens, je vais essayer de le contacter.
C'était qui ce Bâlois ?
Ça, c'était Luc Hoffmann.
Luc Hoffmann, donc le père d'André Hoffmann, de
exactement,
Maya,
donc de la famille qui sont les propriétaires des entreprises Hoffmann-Laroche, oui.
Et alors, donc, vous avez décidé de le rejoindre ?
Ben voilà, finalement, le contact s'est fait. Je l'ai rencontré une première fois au muséum de Bâle. Et il m'a proposé de venir faire une étude précise sur les flamands. Et ça m'arrangeait parce que cette étude...
Donc, les flamands, pas les belges, hein, les flamands roses.
Les flamands roses, écrit avec un T à la fin, oui. qui, évidemment, c'est un des animaux phares, hein, avec les chevaux blancs et les taureaux noirs, quoi. Mais ça m'arrangeait parce que ça servait comme travail de terrain pour mon diplôme à l'époque. Aujourd'hui, on dirait master, quoi.
Et alors, vous avez fait donc, vous avez travaillé dans l'ornithologie, en fait.
Oui, c'était les oiseaux d'abord, quand je voulais m'orienter. Voilà, je suis assez visuel, j'aime dessiner et tout ça, photographier aussi. Donc, les oiseaux, c'est visible, ça s'entend bien aussi. Donc, c'était facile d'accès. Donc, c'était les oiseaux tout d'abord.
Alors, en dehors des flamands, vous vous occupiez de quels oiseaux ?
À Bâle, je faisais partie d'un groupe de jeunes de la Société ornithologique de Bâle qui a fêté ses 150 ans il y a quelques années. Et j'ai écrit un livre là-dessus avec un collègue, un ami. Et donc, c'était les oiseaux. On était dans un groupe de jeunes qui refaisait un peu, voulait refaire le monde et surtout faire passer les idées d'autrement gérer la nature ou de mieux gérer la nature.
Je crois que vous avez sauvé une espèce de petit oiseau.
Non, je ne pense pas que je l'ai sauvé.
Vous lui avez permis de ne pas mourir, de ne pas disparaître de la planète.
Oh, ça serait beaucoup. J'ai travaillé plus tard avec ce qu'on appelle aujourd'hui une fédération qui s'occupe surtout de la protection des oiseaux, ce qui s'appelle maintenant BirdLife International. Donc là aussi, parmi les objectifs qu'ils ont eus, c'était de sauver des espèces devenues très rares d'extinction. Mais moi, je le conçois plutôt d'une utilisation durable des ressources que la nature nous fournit, et aussi d'avoir un engagement plus naturel. Je ne suis pas fixé sur la protection. Hein.
D'accord. On va écouter un peu de musique. Qu'est-ce que vous nous avez choisi ? Fanny de Poule.
Oui, commencer avec une musicienne la plus jeune, peut-être, et celle qu'on va écouter aujourd'hui, quoi. Elle me fascine par son originalité, essayer de trouver de nouveaux chemins, de nouvelles façons de s'exprimer, quoi.
Alors, vous avez choisi Question bête. On va écouter.
Radio Cité Genève, Viviane De Witte.
La bouteille à moitié pleine.
D'abord, on pose le décor. Après, on réfléchit. On adore se noyer dans des énigmes existentielles. Puis on pose les plaques. Ça, c'est le déni. Comme quand t'es petit et puis qu'un jour, t'arrêtes de croire au Père Noël. Alors on dépose le bilan et on s'invente les réponses. Parce qu'il faut dire qu'entre-temps, on a oublié les questions. C'est un peu con, l'être humain, quand on y pense. Ça veut tout connaître de la vie, mais ça ne sait que tourner en rond. Le soleil quand il se couche, où va le bleu du ciel lorsque la nuit tombe? Est-ce que la lune respire aussi par la bouche? Est-ce qu'elle entend le bruit que font les bombes? Où va la flamme lorsqu'on éteint la bougie? Y a-t-il des étoiles jusqu'au bout du paradis? Comment peut-on consoler un saule pleureur? Est-ce qu'il est en larmes lorsqu'il est en fleurs? On s'en fout, tais-toi, ça change rien. Arrête de vouloir tout savoir, de poser des questions bêtes. On s'en fout, tais-toi, ça change rien. Arrête de vouloir tout savoir, laisse dormir ta tête. Est-ce que l'éternité peut devenir un quotidien? Est-ce que des gens sont payés pour chercher l'aiguille dans le foin? Est-ce que le temps est plus souple sur les montres molles? Peut-on arrêter les comètes en plein vol? Quel est le synonyme du mot synonyme? Que mime un mime lorsqu'il mime un mime? Est-ce que les baisers meurent quand l'amour s'en va? Est-ce que l'eau de vie est plus concrète que l'au-delà? Si une perle naît d'un caillou dans une coquille, est-ce qu'un printemps éclot d'un mois de mai dans une jonquille? Est-ce qu'un secret résulte d'un tabou dans une cachotterie? Les excuses proviennent-elles d'un contre-coup que l'on oublie? Combien se vend la peau de l'ours qui est encore vivant? Si le vent éteint les petits feux, pourquoi est-ce qu'il ravive les grands? Un sommeil lourd est-il un échantillon de mort? Les sans-abri ont-ils vraiment des prénoms à coucher dehors? On s'en fout, tais-toi, ça change rien, arrête. Tais-toi, 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 arrête. Tais-toi, on s'en fout, tais-toi, arrête de poser des questions bêtes, 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 bêtes. À quoi pensait le mec qui a inventé les flingues bêtes? Pourquoi les gens les plus puissants sont toujours les plus dingues? Est-ce que les gauchers passent l'arme à droite? Est-ce que ce sont les larmes qui ne coulent pas qui rendent nos mains moites? Est-ce que c'est Murphy qui a voté la loi des séries bêtes? Le sexisme existerait-il s'il n'y avait pas de filles? Est-ce que les blagues des chauves peuvent être tirées par les cheveux? Pourquoi on dit pas un grand beaucoup alors qu'on dit un petit peu? Le lait est-il raciste envers le café noir?
Ça change rien.
S'il y a des fautes dans le dictionnaire, comment on fait
pour le savoir.
On s'en fout.
Le fruit du hasard, est-ce qu'il est comestible? Est-il absurde de désirer l'impossible?
T'es-t'es-t'es-toi.
Si un perdu, c'est 10 de retrouver.
T'es-t'es-toi.
Peut-on nous indiquer à quelle adresse il faut aller chercher?
T'es-t'es-toi.
Est-ce que les oiseaux couchent cachés dans les nuages?
Que raconte l'histoire du livre pour tourner la page?
On s'en fout, fou, fou.
T'es-t'es-t'es-fou.
T'es-t'es-t'es-toi.
T'es-t'es-t'es-bête,
bête, fou, bête, fou.
Bête, bête, fou,
bête, fou.
Laisse dormir ta tête.
Pardon, je.
T'es
pas sûr de tout comprendre.
T'es-t'es-t'es-toi.
Vous pouvez répéter la question.
Bête, bête, fou, bête, fou.
Vous pouvez répéter la question.
Bête, fou, bête, fou.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Tobias Salaté. Et nous allons maintenant parler de son livre « Les terres d'eau » d'apostrophe E-A-U. 12 services qu'elles nous rendent. Mon cher Tobias, vous allez nous expliquer tout ça. Vous avez dit que la nature offrait des solutions aux inquiétudes légitimes que nous avons. Parce qu'en fait, en ce moment, c'est affreux. Il y a des tsunamis, il y a des incendies, il y a des inondations, il y a les glaciers qui fondent. En fait, il y a même un monsieur pas très gentil, qui m'a dit « je crois que le bon Dieu, il est devenu sénile et maintenant ça doit être le diable qui s'occupe de la météo ». Ça nous a fait rire. Mais comment vous envisagez alors d'aider cette nature? Comment, en fait, racontez-nous le livre. Comment vous voyez ça?
Oui, l'idée de base était, je raconte un peu ce que j'ai fait pendant beaucoup d'années, professionnel de ma vie, mais je voudrais le raconter à un public qui s'y est peut-être pas trop intéressé pour l'instant ou qui en connaît pas grand chose encore, parce que je pense que c'est ça qui est important. Étant formé d'une manière scientifique, après on est dans ces milieux, on discute beaucoup,
on fait de l'entre-soi, en fait.
Oui, on a plein de colloques, de séminaires, mais on parle toujours au séminaire. Et donc, transposer ces idées, faire réfléchir, faire découvrir d'autres personnes, c'est un peu ça le but. En pensant à, en fin de compte, il y a beaucoup de gens qui aiment lire, donc leur offrir quelque chose qui est facile à lire, qui est quand même, disons, substantiel. J'essaie d'expliquer tous les termes qui peuvent être un peu techniques, afin que c'est vraiment une initiation sur tous les sujets que j'évoque. Et après, j'aime bien les illustrer avec des cas concrets, des histoires qui fonctionnent déjà depuis un certain temps, où les gens locaux ont été convaincus que ça peut fonctionner.
Alors, on va en parler parce qu'en fait, les terres d'eau, on va déjà expliquer ce que c'est, ce sont les terres liées à l'eau, les zones humides, alors les plans d'eau ouverts, les marécages, les étangs, les lacs, les lagunes, c'est bien ça.
Oui, oui. Et parmi ces pères et ces gens du métier, on appelle ça plutôt les zones humides. Mais en français, surtout en français, et j'ai assisté à plusieurs discussions sur ce sujet, ni zone ni humide sonnent très bien, très positifs et créent peut-être des mauvaises associations. Donc j'ai préféré l'appeler, et c'est pas moi qui a inventé cette terminologie, les terres, parce que la terre, l'espace, les sols, c'est important, et l'eau, bien sûr, qui est essentielle et au centre de la vie.
Alors, vous parlez aussi de ce qui les relie, c'est-à-dire les torrents, les ruisseaux, les rivières et les fleuves. Et vous dites que 6% de la surface terrestre est couverte d'eau.
De ces terres d'eau.
Ces terres d'eau.
C'est relativement peu en surface, notamment quand on considère aussi que les continents sur la Terre ne font qu'un quart de toute la surface de la planète.
Attendez, parce que je voudrais préciser, parce que je me suis mal exprimé. En fait, la Terre est essentiellement de l'eau.
Oui.
Il y a quelle proportion d'océans, de mers, de rivières?
Il y a un gros trois quarts de la surface de la planète
surface de la
sont
Terre,
couvertes
voilà.
Des océans. Oui.
C'est ça. Et puis, à l'intérieur du quart restant, il y a 6%, c'est bien cela, il y a 6% de ces zones humides dont nous parlons maintenant, que vous avez appelé les terres d'eau. Est-ce que c'est bien ça, pour que nos auditeurs
oui,
comprennent?
Oui, donc une surface relativement petite, mais qui est importante à cause de différentes raisons que j'explique.
Alors, vous avez dit 40% des espèces végétales et animales de la planète y vivent et s'y reproduisent. On s'aperçoit que c'est vraiment extrêmement important.
Oui, ça vient du fait que l'eau est essentielle pour la vie. Donc, on trouve, c'est pas une grosse surprise pour les initiés que la plus grande diversité de la vie, on les trouve plus proche de l'eau, dans l'eau et plus proche de l'eau.
Et puis, vous dites, et c'est ça notre débat, depuis 300 ans, on les a drainés, on les a convertis à d'autres usages. Donc, en fait, 80% ont été abîmés, ont été perdus, ont été supprimés, ont été drainés. Comment ça se passe, tout ça? C'est affreux, parce qu'on a perdu l'essentiel de ces eaux d'humide tellement importantes.
Oui, et c'est uniquement depuis peu de temps que les historiens et historiennes s'y intéressent aussi. J'essaie d'analyser ce qui s'est passé autour de nous, en Suisse, en Europe centrale, dans les plaines. À l'époque, encore au XVIIIe siècle, les mouilles, les marécages, les parties mouillées basses dans les cuvettes de paysage étaient toujours considérées comme marginales pour l'agriculteur, parce qu'on pouvait y produire moins, mais toujours utile, parce que marginal mais utile, puisqu'on savait mieux peut-être, puisqu'on l'avait un peu oublié depuis, que c'est là où l'eau est retenue et gardée à long terme pour les périodes sèches. On savait aussi que là, on pouvait faire paître le bétail en fin de saison quand ailleurs sur les prairies il n'y a plus assez de foin ou d'herbe à brouter. Et c'est là où aussi on pouvait couper la litière pour les écuries, pour les étables. Après, sont venues les nouvelles sciences d'ingénieurs. On pouvait drainer. On a commencé à drainer à large aisselle. Ça a augmenté, évidemment, la condition pour les agriculteurs qui y habitaient. On était moins embêtés, même par des maladies comme la malaria, qu'on a pu éradiquer chez nous à l'époque. Et on a augmenter beaucoup la production agricole, mais aux dépenses d'autres services que ces terres d'eau, ces terres humides nous ont rendu avant. Et maintenant, ce système de l'agriculture intensive arrive un peu en bout de course.
On va écouter quelque chose qui est amusant. Vous nous avez choisi, ce sont vos choix, Tobias. Jacques Higelin, poil dans la main.
Radio Cité Genève, Viviane De Witte.
La bouteille à moitié pleine.
Sur le trottoir, une putain de belle chaise toute noire, en fer, avec des lanières de plastique tendues. Une vraie chaise de baratute, une chaise à l'état brut, qui avait dû en voir et en recevoir des culs. Des gros lourdingues à fessiers mous, des petits malingres serrés du trou, ou des jolis voluptueux qui vous attirent le bout des yeux pour mieux leur passer les menottes.
Que tout s'agite autour.
savoir. À ce moment-là, j'avais perdu le goût de m'asseoir et d'amarrer ma solitude, mon cafard et mes habitudes à celles des piliers d'abreuvoir. J'en ai eu marre de les voir s'écrouler sur eux-mêmes en se raccrochant à des histoires qui tiennent pas debout. Ces petites histoires qui vous entraînent au fil des heures, des jours, des semaines, de soirs pisseux en matin blême, direct au trou.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans La Bouteille est moitié pleine, avec Tobias Salaté, qui est venu nous parler des terres d'eau, qu'on appelle les zones humides chez les scientifiques. Et ces zones humides, elles sont essentielles, et malheureusement, l'agriculture intensive et d'autres actions industrielles en particulier ont contribué à les diminuer, à les abîmer, et à les faire en grande partie disparaître. Or, elles remplissent des besoins fondamentaux, garantir notre eau potable, recharger les eaux souterraines, prévenir les inondations, je vous cite mon cher Tobias, protéger les espèces, séquestrer le carbone, on va en parler tout à l'heure, offrir un espace de vie, adoucir le climat, réduire les pics de chaleur, assurer notre santé. Ce sont aussi des espaces de loisirs. Ça réduit les risques aussi parce que c'est tampon entre les effets dévastateurs d'inondations, les sécheresses, les tempêtes, etc. Enfin, quand on voit la liste des bienfaits de ces zones humides, on a du mal à comprendre comment les hommes ont été assez fous depuis, au fond, l'industrialisation et l'agriculture intensive pour oublier tous ces bienfaits. Alors, comment est-ce qu'on va faire maintenant? Vous le racontez dans votre livre.
Oui, je ne suis pas le prédicateur qui a la recette miracle. Tous ces services que vous venez d'énumérer sont bien réels, mais ce n'est pas forcément aussi simple que ça. Donc, puisque c'est très complexe, tout ce qui est vivant, tout ce qui est autour de nous, a tendance d'être un peu plus complexe qu'on le décrit par des théories faciles. Mais j'aime bien illustrer dans ce voyage qu'on fait ensemble avec les lectrices et lecteurs autour du monde des exemples concrets et qui montrent comment l'un ou l'autre service a vraiment été de nouveau compris par les populations locales et qui ont donc ensuite l'utiliser pour en profiter de nouveau si c'était perdu dans le passé, quoi. Et donc je me focalise sur des exemples concrets qui ont montré que ça marche, pas sur des nouvelles idées que d'aucuns peuvent trouver un peu farfelues. Non, c'est du réel, c'est des histoires par des femmes et des hommes qui l'ont vécu, qui le vivent toujours et qui ont été convaincus de ce que est décrit dans ce livre.
Alors, vous citez effectivement des exemples sur la planète. Vous citez un fleuve au Danemark, c'est ça?
Oui.
Alors, un fleuve au Danemark qu'on a régénéré.
Oui, ça c'était un exemple un peu plus simple, que, parce que je cite aussi le Danube ou le Rhin. Pour le Skjern, c'est un petit fleuve, un fleuve puisqu'il rentre directement dans la mer du Nord, mais la rivière ou le fleuve n'est pas très long, mais on s'est aperçu que là où il entre dans la mer du Nord, il y a une lagune. Il y a souvent des lagunes en bordure des océans ou des mers, et dans cette les lagunes sont souvent importantes pour la pêche, parce que beaucoup de poissons s'y reproduisent ou naissent. Et cette pêche a dégringolé à cause d'une pollution du fleuve Skjern par les intrants venant des champs à gauche et à droite, et aussi à cause d'une mauvaise gestion de ces eaux. Donc on a restauré les plaines alluviales, les zones où, quand il y a une crue, le fleuve peut les inonder, et sans faire trop de dégâts ou sans faire de dégâts, parce que c'est des terrains qui sont utilisés par le pâturage et on peut enlever le bétail en temps voulu. Et ainsi, on a pu restaurer ces fonctions. Ça a pris une vingtaine d'années, voire plus, et toujours, ce n'est pas tout gagné.
Alors, il y a des actions aussi en Nouvelle-Zélande. On a doté le fleuve Whanganui du statut de personnalité juridique, c'est-à-dire que c'est devenu une entité vivante ayant des droits propres, de façon à justement assurer le respect de ce fleuve. C'est une avancée incroyable.
Oui, et moi-même étant donc de formation de sciences naturelles, j'y croyais pas trop, c'était pas une priorité dans mes réflexions, mais c'était drôle, en écrivant, un moment, le livre m'a pris moi-même, enfin, les chapitres que j'avais déjà écrits ont dirigé comment je continue à écrire. C'est une expérience assez intéressante. Et je me suis dit, mais je ne peux pas terminer ce livre sans faire mention de ces mouvements et ces réalités. Et je suis peut-être un peu en train de simplifier trop, mais peut-être pas. Souvent, c'est des communautés plutôt traditionnelles, des peuples indigènes, on dit, ou pour être politiquement correct ou autre, dans des gens natifs du terrain, Native Americans, ou comme ça, je mentionne plusieurs exemples aussi dans les États-Unis de nos jours, qui ont une autre approche à la nature, qui, pour eux, c'était toujours évident que un fleuve, une rivière, une forêt ou autre chose a aussi son identité. Il faut la respecter afin qu'elle puisse nous rendre à long terme les services dont nous profitons.
Et Tobias, on a fait une émission ici avec quelqu'un qui nous a parlé des Indiens Kogi, pour qui c'est extrêmement important de respecter les fleuves, les rivières, et qui considèrent que de les avoir enterrés, de les avoir bétonnés, de les avoir drainés, eh bien, c'est en partie les malheurs de la terre et accessoirement aussi une partie de nos maladies. C'était une émission qu'on a faite ici. Alors, ça a éveillé beaucoup de souvenirs chez moi.
Et pour moi, c'était aussi une belle découverte que même moi-même, étant donc un scientifique, je suis très longtemps resté coincé dans mon silo, quoi. Je pense que le temps est vraiment mûr maintenant pour qu'on écoute davantage ce que d'autres métiers, d'autres secteurs, d'autres connaissances peuvent nous dire.
Alors, je veux citer quelque chose qui est grave, par contre. Alors, il y a des bonnes actions en route, vous venez d'en citer deux, et puis il y en a d'autres qui font peur, parce que vous parlez des habitants de la Mancha, en Espagne, qui, avec un écosystème fragile, des tablas, qui est mis en danger par les agriculteurs. Ils ont creusé des puits pour irriguer leurs cultures. Donc, ces pompages font descendre le niveau de la nappe phréatique, et 4 étangs sur 5 sont asséchés. Donc, ils risquent de perdre leur joyau de table d'eau, qui est considéré par l'UNESCO comme le cœur d'une réserve de biosphère. C'est grave, ça.
Oui, ça, c'était un cas d'exemple dont on parle depuis les années 70, 80. Mais la problématique existe aussi plus proche de chez nous. Souvent, on ne prend pas en compte suffisamment la structure des différentes nappes phréatiques, parce qu'ils peuvent en avoir une au-dessus d'une autre. On fait juste des forages et avec le climat qui se réchauffe, et ça, j'espère qu'on est d'accord que c'est une réalité, hein, parmi les ceux qui écoutent, celles qui écoutent l'émission, on est devant de plus en plus de défis. Et l'eau devient rare. L'agriculteur qui en a besoin de l'eau, donc c'est peut-être intéressant de prendre en compte la gestion de l'eau d'une manière plus intégrative dès le début, afin qu'on ne doit pas trop irriguer. J'en ai vu, par exemple, chez nous, dans le Grand Marais, entre les lacs de Morat, Neuchâtel et Bienne, sur le plateau suisse, des agriculteurs qui sont forcés maintenant d'installer des groupes électrogènes pour pomper, écoutez-moi bien, pour pomper de l'eau dans les canaux de drainage. Drainer veut dire assécher. Donc, ils sont obligés de récupérer l'eau qui était prévue à partir au lac pour irriguer les champs qui sont devenus trop sec à cause du climat, de la météo qui chante. Donc c'est un peu, on commence à marcher.
On marche à la tête. Bon, on va écouter un peu de musique, ça va nous changer. Ah ben ça tombe bien parce que vous...
Help
par les Beatles.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone. I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right.
Sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Tobias Salaté, venu nous parler de son livre « Les terres d'eau qui sont les zones humides, et en petit, dessous, 12 services qu'elles nous rendent ». C'est un livre passionnant, paru aux éditions Buchet-Chastel. Alors, mon cher Tobias, on a vu qu'il y avait des prises de conscience sur dans certains endroits, par exemple comme au Danemark ou en Nouvelle-Zélande, mais on peut aussi être inquiet même dans la France voisine ou pas très loin d'ici, pour ce que vous appelez les châteaux d'eau. Racontez-nous ça, les châteaux d'eau qui disparaissent ou qui perdent leur eau en fait.
En Suisse, ou plus largement dans les Alpes, on se vante d'être le château d'eau de l'Europe. Et ça veut dire que là où les montagnes s'élèvent le plus haut, c'est là où les nuages s'accrochent d'abord, et là où il pleut davantage et le plus. Donc c'est là où les eaux de pluie s'infiltrent dans le souterrain, et de là descend les différentes sources et les fleuves vers les quatre directions cardinales dans le cas de la Suisse, vers le nord par le Rhin, vers le sud par le Rhône, vers l'est par le Danube et le Tessin. Donc, c'est important de comprendre ces liaisons dans un bassin versant, donc depuis la tête du bassin ou le château d'eau en altitude, jusqu'à l'embouchure, là où les fleuves touchent les mers.
Alors, vous expliquez qu'avant la fin du XXIe siècle, la plupart des glaciers d'altitude auront disparu. Ça va faire des écoulements records dus à l'eau de la fonte, donc des inondations avec des laves torrentielles qui vont emporter des éléments du sol. Donc ça, c'est quand même assez dramatique. Ça va emporter de la terre, des pierres, etc. Et puis que ces inondations, ensuite, elles risqueront d'être suivies par des pénuries, parce que justement, on ne sait pas drainer toute cet afflux d'eau. Et vous nous parlez du Groenland, qui vous attire beaucoup, avec l'image des glaciers en train de veler. Vous pouvez nous expliquer ce que ce sont, ces glaciers en train de veler ?
Oui, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au Groenland, mais on peut peut-être le voir encore un peu dans les Alpes, autant que se peut. Mais c'est quand, en été, quand la météo est plus chaude, la glace fonde et des blocs de glace en bordure du glacier tombent, se cassent et tombent à l'eau devant, quoi. En Groenland, j'ai observé ça dans une baie de la mer qui va vers le baie d'Hudson. Et c'est particulièrement impressionnant là-bas. C'est aussi pour cette raison-là que la région est reconnue par l'UNESCO comme un patrimoine mondial. Et ça attire quelques touristes, même si c'est plutôt difficile d'accès. Ça fait un fracas, une taille immense, hein, quand ça peut être des milliers, des dizaines de milliers de mètres cubes. Et il faut pas.
Alors ça tombe dans la mer.
Là-bas, ça tombe dans les mers. Chez nous, dans les Alpes, ça tomberait dans un lac qui s'est formé devant le glacier, comme on peut voir devant le glacier du Rhône. Il a rétréci d'une manière impressionnante. Vous devez marcher maintenant longtemps pour arriver jusqu'à la glace, à d'autres glaciers dans les Alpes. On note tous les étés, on voit que peut-être la glace rétrécit 20 mètres par an.
Alors, vous parlez aussi de la soif des mégalopoles, des grandes villes, pour l'eau, puisque on a besoin d'eau, évidemment. Et vous expliquez que certaines villes ont réussi à purifier leur eau, comme New York. C'est très intéressant, ça aussi.
Oui, c'est d'un côté, les humains se sont toujours installés près de l'eau, parce qu'on a besoin de l'eau
auprès de tous les grands fleuves. Hein, quand toutes les grandes civilisations sont dans les plaines alluviales, l'Euphrate, le Tigre...
Donc,
le Mississippi, le Rio de la Plata, en fait, etc.
Oui. Quand on arrive à des grandes mégalopoles, elles ont davantage besoin d'eau. Donc, il faut gérer ça d'une manière durable. À New York, l'exemple de Catskill, c'est que leur eau de bonne qualité vient effectivement des montagnes, de nouveau des châteaux d'eau, à 150 km de distance, et depuis un certain moment déjà. Mais c'est moins cher de maintenir ces aqueducs qui amènent l'eau à la mégapole de New York City. C'est moins cher que de construire des grandes stations de traitement en bordure de la mer pour essayer de purifier l'eau qui se trouve plus proche de la ville. Je cite un autre exemple à Bâle, puisque je le connaissais depuis mon enfance, où on pompe l'eau du Rhin qui est plus assez pure pour le boire tout de suite, mais on le laisse s'infiltrer dans une plaine alluviale qui est drainée, ça se faisait tout naturellement avant. Maintenant, on doit quand même le pomper et le laisser infiltrer dans une plaine alluviale à côté du Rhin, et en percolant dans le sous-sol perméable, ça se purifie tout naturellement afin qu'on puisse ensuite le livrer dans les ménages valoises. Et à l'autre bout de la chaîne, je cite un autre exemple de Rochefort, où on utilise aussi ces systèmes de lagunage pour nettoyer les eaux usées. Donc, plutôt que de construire des stations d'épuration techniques, on laisse faire la nature. Il faut juste du soleil, la photosynthèse, les bactéries qui détruisent, et un peu de végétation qui capte aussi les métaux lourds ou d'autres polluants. Il faut un peu d'espace. En Suisse, on a peu d'espace, donc ça se fait peu. En France, ça se fait beaucoup plus. Déjà, à quelques kilomètres en aval de Genève, vous avez des stations de lagunage comme ça pour des communes.
Alors, vous dites aussi que les zones humides, donc ces fameuses terres d'eau, contribuent à séquestrer le carbone. Alors, racontez-nous ça.
Oui, ça veut nous rappeler d'un principe assez évident et assez qui nous aide beaucoup. Quand la végétation pousse, elle utilise le carbone, le CO2 de l'air, et avec la lumière du soleil, elle fait la photosynthèse, elle crée les sucres et la matière végétale et crée donc toute la végétation verte qu'on voit autour de nous. Ça, c'est tout gratuit et c'est important. Après, ça prend donc le CO2, le carbone dans le gaz carbonique dans notre air et le fixe dans la matière végétale. Aussi longtemps que la végétation est vivante, ça reste fixé. Quand elle meurt, il y a deux options. Soit qu'on coupe des arbres, on les brûle, ben on le relâche dans l'atmosphère. C'est un effet zéro, quoi. Donc, on gagne pas grand chose. Mais du moment où la végétation est dans un terrain humide, comme dans un bol de cornichons, il n'y a pas d'oxygène dans la terre et ça se décompose pas entièrement. Ça forme de la tourbe. C'est la végétation, c'est de la matière végétative morte, mais dans un milieu sans oxygène humide. Et aussi longtemps que vous laissez les cornichons dans un pot non ouvert, donc vous laissez cette végétation dans une tourbière, c'est bon. Du moment où vous ouvrez le pore et l'oxygène entre, ça se minéralise de nouveau et ça relâche le CO2 ou le carbone.
Donc il faut vraiment laisser le carbone dans les tourbières.
Voilà. Donc la première leçon qu'on doit apprendre, c'est de laisser ce carbone bien séquestré, bien gardé à long terme, storé à long terme dans les tourbières. Et la deuxième leçon, c'est de peut-être restaurer beaucoup de tourbières qu'on a détruites ou diminuées afin de réduire les émissions faites par l'homme, puisque ces tourbières dégradées relâchent beaucoup de CO2. De carbone, de CO2 dans l'atmosphère de nouveau et sont mesurés et contribuent à peu près à 4 à 5% des gaz à effet de serre produits par l'humanité.
On va écouter Mozart maintenant. Vous nous avez choisi la marche turque.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine. Thank you.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Tobias Salaté, venu nous parler de son livre « les terres d'eau qui sont les zones humides », et surtout nous parler des 12 services qu'elles nous rendent, afin que nous prenions conscience de l'importance qu'elles ont, et que nous maintenant cessions de les abîmer, de les supprimer, de les drainer, afin de continuer à bénéficier de cet apport indispensable qu'elles peuvent donner à l'humanité. Ce livre est passionnant, il est édité aux éditions Buchet-Chastel, et je recommande à nos auditeurs de l'écouter parce que franchement, ils vont regarder la planète autrement, ils vont regarder l'eau des fleuves, des rivières, ils vont regarder les montagnes autrement, et ils vont se rendre compte surtout de quantité de réalités que les scientifiques connaissent, mais que nous, le commun des mortels, nous ignorons totalement, ce qui est grave pour notre avenir. Mon cher Tobias, je reviens à vous. Je voudrais que nous parlions maintenant de ces zones humides qui contribuent à nourrir la planète, avec par exemple les étangs piscicoles qui sont à usage multiple. Vous pouvez nous en parler ?
Oui, donc, vu que la vie sur Terre est né dans l'eau et a besoin d'eau, y inclut nous-mêmes les humains. Évidemment, ça foisonne beaucoup de vie et beaucoup de diversité. Et ça nourrit aussi beaucoup de pêcheries. Les lagunes, notamment, sont très importants pour plein de pêcheries. Mais aussi, là où c'est plus terrestre, sans eau, vous ne pouvez pas faire pousser grand-chose. Donc, la bonne gestion de l'eau est une gestion qui profite des services que différents éléments de notre nature, de nos paysages nous fournissent déjà, est moins chère que souvent des solutions techniques.
Et puis, vous nous avez parlé aussi de la façon de produire du sel.
Ah oui, évidemment, la façon la plus simple, c'est d'avoir du soleil et peut-être un peu de vent. Dans les parties du globe, la Méditerranée et plus vers les parties chaudes, il y a assez de soleil. Si vous avez de l'espace, vous laissez juste une petite profondeur d'eau salée de la mer et vous laissez évaporer. Ça a été fait aussi avec le sel gemme dans les Alpes. Là, il a fallu chauffer. Il n'y a pas de soleil, donc on chauffe pour l'évaporation. On a déforesté beaucoup d'endroits dans les vallées alpines. On s'est rendu compte que c'était pas très durable, cette façon de faire. On a trouvé d'autres moyens qui sont un peu plus compatibles.
Alors, je voudrais que vous nous parliez aussi des barrages des castors, qui sont beaucoup plus malins que les hommes.
Oui, je voulais lancer cette idée parce que, évidemment, un pays qui a peu de ressources en eau, dans un contexte aride, par exemple la Turquie, ils ont des programmes nationaux, construire des barrages partout où c'est possible. Ne laisser aucune goutte d'eau douce finir dans la mer. Il faut les retenir. Ça va jusqu'à un moment, on le voit aussi d'ici près de Genève dans le Rhône, mais derrière un barrage en béton, en pierre construite, il y a pas que l'eau qui s'accumule, mais aussi les sédiments. Les rivières transportent pas que l'eau, mais aussi des sédiments. Ça peut être des limons, ça peut être du gravier.
Et tout ça, normalement, ça va dans la mer.
Oui, normalement, ça irait dans la mer. Maintenant, ça s'accumule derrière les barrages. Donc, il faudrait les vidanger, les vider de temps en temps. Le long du Danube, ailleurs, on remplit des camions en amont du barrage et on transporte ce gravier pour le relancer dans la rivière en aval, puisque la rivière en aval, elle s'enfonce trop dans la plaine alluviale. Donc, la nappe phréatique descend et les champs à gauche et à droite de la rivière s'assèchent aussi. Et après, je me suis dit, mais finalement, le castor qui nous éblouit par ses capacités de construire des digues et qui fonctionnent, qui augmentent le niveau d'eau en amont, Il était plus rusé parce que ses barrages à lui, ils ne sont pas à 100% imperméables. Ils laissent passer,
des sédiments.
Et des sédiments. Et il y a beaucoup moins de travail avant. Donc, je lance peut-être une idée aux ingénieurs de réfléchir selon cette voie-ci.
En clair, les ingénieurs doivent imiter les castors. On est bien d'accord.
Oui, c'est un peu
compliqué. Les travaux
compliqué.
Des castors.
Je l'accepte, mais ça me reprend l'idée, laissons-nous inspirer davantage par les solutions que la nature le montre déjà.
Alors, j'aimerais aussi parler des poissons migrateurs. J'ai découvert, parce que je ne le savais pas, que l'anguille se promenait entre l'eau salée et l'eau douce.
Oui, les pêcheurs, évidemment, ils connaissent très bien les grands poissons migrateurs, l'anguille, ou à l'inverse, le saumon, les truites. L'anguille est maintenant une espèce très, très menacée parce qu'elle devient de plus en plus rare en Europe. Vous me disiez peut-être l'anguille, il y en a des poissons comestibles qui ont meilleur goût que l'anguille, mais l'anguille était aussi à la base de beaucoup d'économies rurales dans le temps.
Il y avait même des contrats qui se faisaient en poids d'anguille dans certaines régions de France, autrefois.
Oui, oui, notamment. Et en France, on est un peu avancé sur le sujet, où on commence maintenant déjà à construire des passes de poissons spécialement pour les anguilles, afin que les anguilles puissent traverser des barrages qu'on a construits pour faire l'électricité. Donc, quand l'anguille monte, elle monte dans une espèce de tapis qui lui fasse suffisamment d'accroche pour pouvoir monter contre le ruissellement qui dépasse le barrage, puisqu'elle est obligée de monter en amont pour grandir avant qu'elle retourne dans la mer des Sargasses, là, donc vers les Caraïbes, où elle va se reproduire.
Mon cher Tobias, on arrive malheureusement au terme de cette émission. Je crois qu'il aurait fallu 3 émissions pour raconter votre livre, « Les terres d'eau ». 12 services qu'elles nous rendent aux éditions Buchet-Chastel. En clair, vous dites à la fin, et ce sera notre conclusion si vous le voulez bien, les terres d'eau sont les héros méconnus de notre planète et de ses habitants. Et vous parlez d'une éventuelle déclaration universelle des droits des terres d'eau, pourquoi pas. Merci beaucoup d'être venu à notre micro aujourd'hui.
Merci pour votre invitation.
Et je recommande à nos auditeurs votre livre. Je répète, Les Terres d'eau. Il faut absolument le lire aux éditions Buchet-Chastel. C'est passionnant, passionnant. Merci beaucoup. Et merci aussi à notre technicien Olivier Steinmetz qui nous a enregistré aujourd'hui. Et peut-être à bientôt pour une autre émission. Au revoir, Tobias.
Merci, à bientôt.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.